de...
Des personnes parce qu'elles sont, parce qu'on les considère malades, c'est quand même des personnes normales et vivantes. Je crois qu'on ne peut pas les exclure, de toute façon.
Alors peut-être je pourrais reposer ma question du point de départ qui, à mon avis, nous permettra ensuite de discuter justement pourquoi ce dialogue est si important entre les jeunes et les adultes, bien sûr, à propos du sida et des personnes qui vivent avec cette maladie ou disons l'avenir d'être touchés par cette maladie. On a eu toute cette information. Alors les uns et les autres, vous les jeunes et vous qui êtes dans ces groupes qui travaillez et qui avez envie de parler aussi de ce que vous vivez, comment vous avez ressenti toute cette information? Alors peut-être donnons la parole aux jeunes en premier.
Ben moi je trouve que c'est vraiment une bonne chose d'informer le public, enfin les gens qui sont en contact peut-être souvent avec le sida, parce qu'on ne peut pas les laisser dans l'ignorance. Alors je trouve ça vraiment une bonne chose.
Peut-être vous pouvez évoquer aussi les moyens qui ont été employés. Il y a eu des affiches, il y a eu des articles, des prises de position de personnalité, il y a eu les bandes dessinées dont on a beaucoup parlé, Joe, l'histoire du latex, etc. Tous ces moyens, peut-être plus concrètement, essayer de dire ce que vous en avez pensé.
Ben, en tout cas, pour les jeunes, je crois que c'est la BD Joe qui a été la plus persuasive, enfin, qui nous a plus informés. Parce que c'est, d'abord, c'est pas quelque chose où on a jeté un coup d'œil comme ça en vitesse. On l'a lu, elle nous a plu, et c'est quelque chose qu'on va garder. Ce n'est pas comme des prospectus ou comme ça, des affiches. Au fond, on était concernés aussi parce que ça se passait entre jeunes.
Moi, je suis pas du tout d'accord. Alors, ça fait un bout de temps qu'on reçoit des informations sur le sida, dans le cadre du collège, dans le cadre des diverses choses qu'on vit. Et à mon avis, il y a beaucoup de choses qui sont très mal faites. Depuis le temps qu'on en reçoit, maintenant on arrive à avoir un certain recul vis-à-vis de ce qui nous est donné. Et moi, je ne suis pas d'accord au point de vue de la BD. Je pense que l'histoire de la BD était une bonne manière de toucher un très grand nombre de gens. Par contre, je pense qu'elle a été très très mal faite et qu'elle ne représente pas du tout ce que c'est que le sida à l'heure actuelle. Quant aux divers moyens de prise de conscience qui ont été donnés, effectivement, on a réussi à rompre certains tabous, mais à mon avis, pour en créer d'autres, je pense qu'il y a encore des flous qui persistent et qui sont pas loin d'être résolus. Et il y a encore, à mon avis, beaucoup de problèmes dans le cadre de la prévention.
Alors peut-être on pourra revenir très précisément à ces questions, mais peut-être on continue notre tour d'horizon.
Alors moi, je dirais la BD de Joe, c'est une côté, et puis l'autre côté, c'est nous. Alors, nous sommes là pour en discuter, pour dialoguer, pour répondre aux questions. Si jamais vous avez des questions, nous avons notre standard là. Et puis, je pense que c'est absolument nécessaire que nous commençons à montrer aussi notre demande que nous avons, si c'est au État, si c'est à la société de la Suisse, de se ouvrir et puis de commencer à dialoguer.
Mais Iris, peut-être quand même, malgré tout, vous qui êtes concernée par cette maladie, qu'est-ce que vous avez pensé de toute cette information qui est sortie? Est-ce qu'elle vous paraissait à côté de la plaque complètement, ou est-ce que c'était utile? Ça vous semblait quand même des démarches importantes?
C'est bien qu'il y a l'information, mais qu'est-ce que je vis à Zurich? C'est qu'il y a tellement d'informations, mais pas des informations directes, disons des personnes atteintes, que les gens eux-mêmes savent presque plus quoi. Qu'est-ce que c'est juste, ou bien comment je peux réagir? Sur la campagne, il faut dire, il y a toujours des visages très tristes, et puis, disons, moi par exemple, je me sens pas du tout triste, et puis je vis comme tout le monde, je fais mon ménage, et puis tout, et puis j'ai un ami, et puis ça marche bien, et puis je pense que ça, c'est beaucoup plus nécessaire de montrer. Hein.
Bah, moi, je voudrais juste rajouter que les campagnes d'information, elles sont certainement pas toutes parfaites. Il y a toujours des choses qu'on peut améliorer, mais je crois qu'elles ont été nécessaires. Je crois qu'on est les premiers à pouvoir dire que toute cette campagne est indispensable. Je crois qu'on est aussi partie prenante dans la lutte contre le sida, peut-être encore plus fortement parce qu'on sait exactement ce que c'est, on sait exactement ce que ça provoque et qu'on n'a pas du tout envie que l'épidémie continue au rythme où elle était partie dans les premières années. On sait que les campagnes ont quand même eu un impact, en tout cas dans nos pays. Je crois qu'il faut toujours continuer ce message de prévention. Et puis s'il y a des nouvelles idées novatrices qui se font, comme je pense qu'il y a des projets qui existent aussi de dialogue avec les jeunes, je crois qu'il faut continuer dans cette optique. Je voulais juste dire que hélas, encore jusqu'à présent, le sida, c'est resté vraiment quelque chose de... On en parle beaucoup, mais on ne voit pas beaucoup les gens qui sont touchés. On sait que les personnes touchées, moins elles en parlent à leur entourage, moins elles en parlent dans leur milieu professionnel, mieux c'est. Eh bien, ça, c'est extrêmement dommage, parce que la réalité, elle vient uniquement quand on peut se montrer et quand on peut en parler entre personnes touchées, pas touchées, puis les personnes qui ne savent pas. Je crois que ça, c'est les... Mais je voudrais que Dominique, elle présente un petit peu des projets novateurs, une autre façon de parler du sida.
Oui, juste pour dire qu'on a commencé depuis quelques temps à aller dans les collèges, et puis dans les écoles, et puis dans les lieux où se trouvent les jeunes, toujours en compagnie de personnes qui témoignent, donc personnes concernées qui témoignent de comment on vit avec le sida, et qu'est-ce que ça veut dire d'être séropositif, ou qu'est-ce que ça veut dire vivre avec le sida. Et je crois que cette façon de faire la prévention est passé un niveau au-dessus. C'est plus des prospectus justement qu'on distribue, mais c'est la rencontre de gens qui vivent une réalité et puis de gens qui s'interrogent sur cette réalité. Et je pense que ça, on va essayer de le développer aussi, parce que chaque personne, chaque jeune et chaque individu a le droit de se dire pour lui-même ou pour elle-même, maintenant je sais comment se transmet le sida, je sais comment on s'en protège et qu'est-ce que je veux faire moi dans ma vie, quel risque je veux prendre et qu'est-ce que je choisis de vivre.
Alors je crois que, comme le proposait Iris tout à l'heure, bien sûr il y a les jeunes qui ont envie de poser des questions à nos amis qui sont là, et puis il y a vous aussi qui pourriez poser des questions. Ça pourrait être une discussion avec tout le monde, et peut-être justement tout le monde a un certain nombre d'informations, puis maintenant cette information, peut-être qu'il est utile de la confronter avec un vécu, avec la réalité, et toute la théorie possible ne remplacera jamais l'échange sur le concret. Je suis sûre que vous avez plein de questions à poser à Sylvie, Iris, Dominique Roulin et Philippe, et peut-être vous aussi qui suivez cette discussion. Il y a un micro qui pourra circuler parmi vous, n'hésitez pas à faire signe, le micro est dans la main de Thiro à côté, donc n'hésitez pas à poser des questions vous aussi. Alors peut-être pourrions-nous commencer par une ou deux questions, mais celle par exemple qui consiste à justement confronter la réalité, l'information avec la réalité. Quand vous savez que vous avez en face de vous des personnes qui aujourd'hui doivent vivre avec cette maladie, est-ce qu'il y a tout de suite une question qui vous vient à l'esprit par rapport à ce que vous savez, ce qu'on vous a dit ?
Alors moi, il y a une question que je me pose tout le temps, c'est qu'est-ce que ça change dans les habitudes ? Dans les habitudes de tous les jours que vous aviez avant et que vous avez maintenant.
Moi, pour moi, je dirais que ça a changé tout et puis ça n'a rien changé. C'est-à-dire, je ne sais pas, évidemment, ça provoque... forcément, on réfléchit, mais je m'aperçois que je suis toujours la même personne. Évidemment, ça a changé ma réflexion quant à ma sexualité. Ça ne veut pas dire que... j'ai réduit ou je juge de manière mauvaise la sexualité que j'avais avant. Simplement, y a une réflexion qui se fait, c'est que quand on a un partenaire, maintenant peut-être le dialogue est essentiel, et puis de pouvoir parler aussi de sa séropositivité pour pouvoir justement rentrer dans le critère de choix du risque. Je crois que ça, c'est essentiel, mais je dirais que je suis toujours le même, heureusement.
Dire que ce que ça change, c'est que tout d'un coup, au départ, quand on apprend qu'on est séropositif, on se sent un peu coupable, on se sent regardé de travers par les gens, on a l'impression vraiment de... Moi, je sais que pendant une longue période, je me suis comparée à un juif pendant la guerre, j'avais l'impression d'avoir à la place de l'étoile jaune le mot sida dans mon dos ou sur mon front, et petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais plus différente, que j'étais pas la séropositive, mais que j'étais toujours Sylvie, que j'étais toujours vivante, et que en fait... Oui, c'est plutôt la notion par rapport à cette honte qu'on veut nous mettre sur le dos, à ce non-respect qu'on a des malades du sida qui m'ont fait, que je me suis dit, il faut qu'on parle du sida d'une autre manière que ce qu'on entend jusqu'à présent par les médias, parce qu'il y a eu aussi une mauvaise campagne d'information au départ. On parlait de groupe à risque, homosexuels, toxicomanes, et je crois qu'il n'y a pas que des homosexuels, il n'y a pas que des toxicomanes qui sont confrontés au sida, c'est tout le monde qui peut l'être. Et moi, dans les rapports que j'ai avec les jeunes, quand je vais dans les écoles pour parler, je me suis rendu compte que les jeunes sont de mieux en mieux informés, qu'ils ont envie de dépasser une certaine information, c'est-à-dire de parler avec des gens qui sont malades, de dialoguer avec eux. Et le problème pour moi se situe plutôt au niveau de la génération entre 30 et 40 ans. C'est-à-dire ils pensent que ce n'est pas pour eux le sida. Et c'est là où il y a vraiment un grave danger. Et je crois que les jeunes peuvent être un relais pour leurs parents. C'est-à-dire de dire mais parlons. Et je crois qu'on ne peut pas toujours attendre que les autres veuillent parler avec nous. Il faut nous aller vers les autres. Donc c'est pour ça que j'essaye de témoigner et d'aller dans les écoles pour justement faire une démarche d'aller vers l'autre.
Sylvie, est-ce que c'est cette réflexion qui a amené à la création de l'association des personnes vivant avec le sida? Comment s'est créé ce groupe et pour quelle motivation?
Alors, je vais passer la parole à Philippe parce que Philippe est fondateur de l'association suisse des PVA avec Elam.
Ouais, juste, j'ai rencontré Elam Basti, dont M. Derib a parlé. Donc, j'ai rencontré, elle avait créé SIDAction à Lausanne. Et puis, on s'est rencontrés un jour, on s'est dit, bah, tiens, il y a des petits groupes de personnes qui se réunissent autour de, leur problématique de séropositivité ou d'être confrontées au sida dans leur chair. Et puis on s'est dit, c'est dommage que tous ces petits groupes sont un peu éparpillés. Et puis on a essayé d'organiser des rencontres. Et puis de là est née une association qui voulait être un petit peu une voix pour tous les séropositifs, en tout cas tous ceux qui nous écoutent en Suisse, pour pouvoir être entendus aussi au niveau de l'État, puisque jusqu'à présent, après 10 ans d'épidémie, la situation sociale des séropositifs ne fait que se détériorer. Au niveau des traitements, il y a eu quelques progrès notables, mais il n'y a encore aucune guérison. Il y a toujours des manques au niveau des budgets. Il y a encore énormément de choses à faire. Et puis, on s'aperçoit qu'il n'y a que nous qui pouvons nous bouger pour que ces choses se fassent. Je crois que c'était une des notions. Puis une notion aussi pour qu'on ait plusieurs, c'est que je ne représente pas tous les séropositifs. Je crois qu'on est aussi assez différents les uns des autres. On a chacun une vie différente. Oui, il n'y a pas d'autres mots. Et je crois qu'il faut aussi casser le cliché du malade du sida qui est comme ça ou du séropositif qui est comme ça. Je crois que on est déjà trois là. Vous voyez qu'on a certainement des sensibilités différentes, mais qu'on arrive quand même à s'entendre et avoir les mêmes buts.
Une autre question, moi je voudrais rajouter peut-être. Juste que moi, ce que j'ai appris en faisant partie du comité de l'association suisse des PVA, qui maintenant s'appelle les PVA Suisses, c'est qu'on vient tous d'horizons différents, de milieux différents, mais qu'en fait on s'aime tous, on s'écoute, on communique entre nous. Il n'y en a pas un qui vaut mieux que l'autre. Et vraiment, on a une solidarité entre nous et une communication qui est très forte et qu'on a envie de généraliser à d'autres groupes déjà et à toute la société en général.
Alors moi, j'aimerais connaître, savoir comment ont réagi les gens de votre entourage.
Alors moi j'ai vécu des choses assez agréables, un peu étonnant quand même. Les gens restaient sur distance, autant qu'ils ont entendu que je suis séropositif. Mais maintenant ils disent tous bonjour Madame Reteler, ça va bien, et puis ils sont très gentils. Et puis j'ai pas vécu la discrimination comme on parlait, disons, au contraire. Et j'ai aussi vécu, quand je rentre, quand je fais le premier pas sur les autres, disons, les autres personnes, ils ouvrent, ils commencent à discuter ou même à demander des choses. Et puis, je peux parler du sida et puis ils sont ouverts. Je le sens aussi qu'il y a encore beaucoup de peur. Et puis, je dirais, il n'y a personne sur Terre qui doit avoir peur. Hein. Il y a autant de choses. Hein.
Mais je crois quand même que quand on parle de la peur, c'est malgré tout le message qui a été beaucoup transmis souvent par les campagnes de publicité, enfin soi-disant d'information, mais on a souvent mis beaucoup cette image. Alors, quand vous témoignez, quand les jeunes vous posent des questions, quel message vous avez envie de leur dire, de leur transmettre à propos de la peur, justement? Comment surmonter cette peur?
Alors, premièrement, protégez-vous et puis aimez la vie et puis prenez les mots, parlez honnêtement, faites pas d'histoire, êtes fiers sur vous et puis aimez votre partenaire ou bien essayez au moins de comprendre et puis tu arrives jamais à te comprendre ou bien ton partenaire si tu ne dialogues pas, tu vois.
Moi, je voudrais dire quelque chose par rapport à la peur parce que la peur, elle existe, il faut pas dire qu'elle n'existe pas et il faut aussi pouvoir... dire aux gens que cette peur, on peut l'exprimer, qu'on ne va pas être rejeté parce qu'on dit qu'on a peur d'un malade du sida. Et que pouvoir parler de cette peur et pouvoir dire j'ai peur pour telle et telle raison, c'est déjà faire un pas pour essayer de dialoguer, et puis cette peur, on peut la dépasser. Je crois que c'est aussi dans la rencontre qu'on arrive à dépasser les peurs, et pas seulement dans des messages qui disent « n'ayez pas peur ». Ça ne suffit pas de dire « n'ayez pas peur », il faut aussi rencontrer les gens pour se rendre compte que ce n'est pas dangereux de côtoyer des gens et de vivre avec des gens qui ont le sida. C'est dangereux d'attraper le sida, mais on sait comment ça s'attrape. Mais ce n'est pas dangereux de vivre avec des gens qui ont le sida.
Gilles, tu as une question ?
Ouais, non, moi je suis tout à fait d'accord avec Sylvie quand elle dit que nous sommes la classe en tant que jeunes, la classe la mieux informée sur ce qu'est le sida à l'heure actuelle. Effectivement, je pense être à peu près au point, je sais ce qu'est le sida, je me sens pas du tout en manque d'informations. Je pense qu'il y a plutôt un problème au niveau du ciblage de l'information. Et lorsqu'on a réussi à s'arranger pour que tout le monde sache que le sida, ça s'attrape par le sang et par les relations sexuelles, on a fait un grand pas. Mais maintenant, on reste dans ce... J'ai presque l'envie de dire que c'est un cliché. Alors, les relations sexuelles, il faut absolument mettre une capote tout le temps, c'est vrai. Mais il faut quand même continuer à vivre. Il faut arrêter de... Parce qu'on a déplacé cette peur sur une peur de la relation sexuelle ou une peur de l'aiguille. Et il faut continuer à vivre. Il ne faut pas être dans une espèce de phobie continuelle du sida, je veux dire.
Oui, mais pourtant, c'est encore les préservatifs qui est le meilleur moyen de s'éviter d'être infecté. Et puis aussi, il y a encore la syphilis, il y a encore d'autres maladies. Il ne faut pas parler que du sida, disons, en prendre le mot du préservatif. Et en plus, disons, si j'ai mon partenaire, je préfère de prendre un préservatif parce que moi, je veux que lui, il peut vivre. Et puis comme ça, moi aussi, je peux vivre. Et puis ça donne un bon entendeur ensemble, tu vois.
Ah non, mais j'ai pas dit qu'il ne fallait pas utiliser de préservatif.
Non, c'est... Pardon, alors.
Non, pas du tout. Ouais.
En l'occurrence, Gilles, Claire, Laetitia et Sophie sont dans un collège à Genève où a été organisée une réunion pour convier les jeunes à dialoguer justement avec des personnes qui vivent avec le sida. Alors peut-être que vous pourriez nous raconter comment cette rencontre a été organisée, de qui est venue l'initiative et si elle a eu du succès, si c'était évident que c'était un désir, une nécessité de tout le monde de rencontrer une fois et de pouvoir parler avec des personnes qui vivent avec le sida.
Bon, ce qui s'est passé, c'est que c'est une stagiaire en bibliothèque qui a fait son travail de diplôme sur le sida. Et dans le cadre de son travail, elle a organisé un plateau débat avec les gens qui se trouvent ici, enfin certains. Et bon, elle ne savait pas du tout si ça allait avoir un écho important. Et effectivement, il s'est trouvé que le débat a très bien marché. Enfin, moi, il me semble. Je ne sais pas si vous pouvez confirmer. Mais ça a très bien marché. Il y a eu beaucoup de monde. Et effectivement, ça peut montrer que... Ça nous touche de près, c'est pas quelque chose comme ça. Oui, le sida, mais bon, ça nous intéresse pas.
Moi, je voudrais peut-être ajouter, donc, j'étais au collège Rousseau, que j'ai vu une salle avec 200 jeunes dedans. On a parlé pendant 1h30 et il n'y a pas eu un seul bruit dans cette salle. Et moi, je me souvenais de moi quand j'étais à l'école et que j'avais 16, 17 ans, et ben jamais j'ai vu une salle comme ça et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et après cette soirée, donc, j'ai reçu des lettres d'élèves qui me félicitaient et qui m'encourageaient à continuer. Et grâce à eux, je continuerai toujours.
Vous avez aussi participé d'une façon ou d'une autre parce qu'en plus, c'est l'occasion de se rencontrer et de parler qui a eu lieu dans votre collège, a été entourée de toute une action aussi de solidarité avec le groupe SIDA à Genève. Vous pourriez parler un petit peu aussi cette action-là ? Je ne sais pas si Claire, par exemple, tu veux en parler.
Ben, disons que la bibliothécaire qui organisait ça, elle nous a demandé, elle a fait passer des messages dans les classes, qui voulait organiser une vente de pâtisserie ou de quelque chose quoi, pour récolter de l'argent, pour pouvoir donner de l'argent au groupe Genève SIDA. Et puis, donc on s'en est occupé, puis ça a pas mal marché. Puis, ce qu'il y a eu en trop, ben... C'est allé justement pendant qu'il y a eu le débat, ben on y a donné quoi, ou bien on y a vendu, ça dépendait quoi. Voilà.
Alors, est-ce qu'il y a des questions qui sortent ? Vous avez l'impression qu'on vous pose des questions, par exemple dans le cadre de débat qui vient d'être évoqué, qui sont une tentative de confirmer ce qu'ils ont vu. Je ne sais pas si on reprend, parce que j'en discutais un petit peu tout à l'heure avec Gilles, on a beaucoup dit que par exemple suite à la parution et la distribution de la bande dessinée de Joe. un nombre incroyable de jeunes sont venus pour faire des tests sida. Qu'est-ce que vous pensez de, je ne sais pas si c'était une des questions éventuellement que vous aviez envie de poser, à quel moment vous avez fait un test, comment avez-vous vous su, c'est vous qui aviez pris l'initiative de faire un test et vous avez à ce moment-là su que vous étiez séropositif. Qu'est-ce que vous pensez de cet effet, par exemple, de l'information sur les jeunes? Et peut-être Gilles dira pourquoi lui, il a fait cette démarche aussi.
Ouais, moi je vais juste dire que... Dépêche-toi. Voilà, je voudrais dire que moi, le test, j'ai pas choisi tellement. Il m'a été un peu imposé. J'avais 20 ans, donc quelque part j'étais jeune, je crois que je le suis toujours, mais j'étais plus jeune. Je sais pas si la fois où on me l'a fait, c'était le bon moment. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui me tombait sur la tête et que je n'avais pas encore compris. J'avais pas pu parler, j'avais aucune information, ou très peu. Heureusement que je faisais partie d'un... Je dirais que j'étais homosexuel et que c'était à peu près le seul milieu où circulait une information honnête. Et je crois que c'est heureusement, j'ai eu cette chance. Je crois que le test, c'est quand même quelque chose qui n'est pas anodin. C'est pas un examen de routine. C'est un examen qui doit être mûrement réfléchi, discuté dans le cadre d'une consultation médicale, qui peut être rediscuté même avec des amis, avec des personnes touchées, et qui doit être le fruit d'une décision. Quand on parlait de la bande dessinée, je crois que l'effet positif principal, c'est le dialogue que ça a engendré. Le test ou le fait d'aller se faire tester, je ne sais pas si c'est forcément la bonne solution. Je crois qu'il y a toute une évaluation. On doit bien réfléchir avant de faire un test, des implications que ça va avoir, parce que ça, forcément, on devient tout d'un coup à un âge où je ne pensais pas du tout à la mort. Même si je prenais des risques dans la vie, hein, dans le sens, dès que je montais dans une voiture, il y a toujours des risques. Mais tout d'un coup, le risque devenait quelque chose de... la mort se faisait présente. Et je crois que il faut y réfléchir peut-être avant, plutôt qu'on n'y soit pas préparé aussi. Et je crois qu'il n'y a que dans la communication, que dans le dialogue, qu'on peut un petit peu essayer de trouver... quelle réaction on va avoir. Et puis des fois, c'est complètement... On peut se dire, oh, ça va aller tout seul, de toute façon, je crains rien. Puis s'il y a un résultat positif, je vous assure, ça va jamais facilement tout seul.
Moi, je voudrais juste dire par rapport au test que le test, c'est pas un moyen de prévention. Et c'est pas parce qu'on aura fait le test... Il a pas retrouvé ses parents.
Dépêche-toi, Christophe.
Donc je reprends pour dire que je pense que le test, c'est pas un moyen de prévention et que c'est pas parce qu'on a fait le test qu'on va rester séropositif, c'est parce qu'on va avoir un comportement séronégatif ou qu'on va se protéger. C'est pas en ayant passé le test qu'on va se garantir une vie saine. Je crois que c'est se protéger, c'est changer son comportement. Et il n'y a pas non plus de raison d'aller faire le test si on n'a pas eu de comportement à risque. C'est complètement idiot d'aller faire un test pour faire un test.
Ouais, le test, il est valable dans certaines circonstances. Le test, il est valable si on a eu des comportements à risque et qu'on veut être sûr. Si on a une relation stable et puis qu'on voudrait éventuellement se passer du préservatif dans un couple stable. Et puis alors, il faut bien entendre dans la fidélité un sens qui veut dire sans partenaire ou pas une fidélité de 3 mois et puis ensuite une autre fidélité de 3 mois. Etc. Ça n'a aucune validité. Je crois que c'est valable pour les femmes, pas pendant la grossesse, s'il vous plaît. Essayez d'y penser avant, parce qu'on nous... Mais oui, je pense qu'il faut dire ce qui est. On propose des tests à des femmes qui sont enceintes pour ensuite leur proposer des avortements avant. Je crois que n'importe quelle femme... c'est un conseil que tu pourras raconter ton histoire, oui.
Doit surmonter. Et en plus, pendant 1 an et demi, donc je savais pas si cette chose que je devais surmonter, elle était uniquement pour moi ou si elle était également pour mon enfant qui venait de naître. Parce que vous savez que tout enfant qui naît d'une mère séropositive est également séropositif pendant au moins 18 mois. C'est-à-dire que l'enfant a des anticorps de la mère qui ne sont pas les siens, mais qui sont uniquement ceux de sa mère. Et il forme ses propres anticorps au bout de 18 mois, voire 2 ans. Et au bout de ces 2 ans, on peut dire si un enfant est séropositif ou non. Et c'est pour ça qu'on fait un test seulement à ce moment-là sur le bébé. Mais bon, c'est vrai que ça change quand même la vie de se dire tout d'un coup, quand on a 24 ou 25 ans, de se dire, bah tiens, peut-être que je vais mourir, qu'est-ce qui va se passer? On a toute une approche de la mort qui est peut-être différente de ce que pourrait avoir un autre jeune de 25 ans qui n'a pas le HIV en lui. Parce que malheureusement, il n'y a encore personne qui peut dire qu'il a été guéri par le sida. Et je crois que, bon, il y a des progrès dans la médecine, mais ça change la vie, oui. Alors moi, le message de prévention que j'aurais, c'est négatif, vous êtes, restez là, parce que vous savez comment vous protéger. Ah, et mon mari, alors la question de mon mari. Donc oui, il a fallu que je réapprenne une autre manière de vivre avec mon mari, c'est-à-dire utiliser dans notre couple le préservatif, ce qui n'a pas été une chose facile pour nous, parce que, enfin surtout pour moi, parce que pendant 6 ans, j'avais donc eu des rapports non protégés, protégés uniquement par une contraception pour la grossesse, mais pas pour d'autres maladies. Et donc, il a fallu que j'apprenne à utiliser le préservatif, ce qui n'a pas été facile pour moi, mais maintenant, avec ce préservatif, je continue à avoir des rapports avec mon mari et tout se passe pour le mieux.
Voilà, alors c'était un très long première partie d'un débat organisé lors du dernier Salon du Livre par l'Association des personnes vivant avec le sida qui avait désiré rencontrer des jeunes collégiens et collégiennes pour discuter d'une autre façon de parler du sida auprès des jeunes. Remue Ménage aujourd'hui c'est terminé et je vous propose notre émission de la semaine prochaine. Nous rencontrerons le comité contre le harcèlement sexuel et les femmes qui se sont engagées pour attaquer leur patron en justice, des femmes dont vous avez largement entendu parler dans la presse, le courage qu'elles ont aujourd'hui justement à vivre avec ce match de ping-pong dans la presse qui dénature leur requête. Et nous le savons bien, toute femme victime de ce type de violence et de harcèlement, ce n'est pas une démarche facile à faire et à celle en premier et à ceux qui osent prétendre que c'est une façon de régler un compte avec les hommes, je crois qu'ils devraient un tout petit moment se mettre à la place de ces femmes. Donc la semaine prochaine, nous découvrirons avec elles pourquoi elles ont décidé d'entreprendre cette démarche et qu'est-ce qu'elles ont décidé de faire désormais face à ce qui se passe en ce moment. Voilà, Remue Ménage, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et dans quelques instants, c'est les informels de Radio Pleine Lune. Thank you.